Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les agents de nettoyage, deux fois plus touchés par les maladies professionnelles que l'ensemble des salariés. C'est le constat alarmant dressé ce matin par l'Agence de sécurité sanitaire. C'est une date que personne ne pourra oublier. La France commémore les attentats du 13 novembre 2015. Témoignage dans ce journal de l'ancien chef de la BRI qui a mené l'assaut final au Bataclan. Et puis une plainte déposée contre l'éducation nationale par la veuve de l'institutrice Caroline Grandjean qui s'était suicidée le jour de la rentrée après des mois de harcèlement homophobe.
Ils sont plus d'1 200 000 salariés en France et leur santé est en danger.
Ce sont eux qui nettoient souvent à l'aube ou tard le soir les entreprises, les hôpitaux ou encore les écoles. 1 200 000 agents de propreté, dont plus de 70% sont des femmes, exposées au quotidien à des produits chimiques et soumis à des conditions de travail souvent très précaires. Et forcément, ça a des répercussions. Selon un rapport publié ce matin par l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, ces travailleurs sont deux fois plus touchés par les maladies professionnelles que les autres. Cassandre Brault a rencontré l'une d'elles pour RMC.
Le réveil sonne à 4h15.
Tous les matins, c'est la même routine pour Aïcha.
Pour arriver à 6h pile là au travail.
Le début de sa première mission de nettoyage, il y en aura deux autres dans la journée.
On court après l'heure, même en dormant, on regarde la montre.
Cette mère célibataire de 51 ans n'a pas le choix. Elle doit avoir plusieurs employeurs pour s'en sortir.
Parce que notre salaire, il est trop bas. Ça ne suffit pas pour nourrir nos familles. On n'a pas beaucoup d'heures. C'est rare qu'on trouve des gens qui en ont temps plein.
Donc elle enchaîne dans une université parisienne d'abord, puis dans des entreprises. Un métier très physique.
Il faut pousser les chariots qui sont vraiment lourds. Il y a de l'eau, il y a des produits, il y a les sacs poubelles. On ne peut pas se permettre de perdre du temps. Pour nous, la minute, ça compte.
Et ça se répercute sur sa santé.
J'ai un problème dans les genoux et ça m'a posé sur le dos aussi. Voilà quoi, j'ai un petit peu mal.
Un sourire et elle minimise. Elle ne peut pas être arrêtée, regrette-t-elle. Il faut payer le loyer.
On n'a pas le droit. On ne voit pas d'avenir. Pour nous, on est là aujourd'hui, demain, je ne sais pas. Et la seule chose qu'on a gagnée, c'est d'avoir mal partout et une santé qui ne suit pas.
Aïcha repart vers sa prochaine mission. Le soir, elle ne rentre jamais chez elle avant 22h.
Un mot des chiffres du chômage en hausse de 0,1 point au troisième trimestre. Il est 7h33 et c'est un jour dont tout le monde se souvient avec une précision quasi intacte. 10 ans après le 13 novembre 2015, la France commémore ce qui aura été l'attaque djihadiste la plus meurtrière de son histoire. 132 morts au total. À partir de 11h30 ce matin, Emmanuel Macron se recueillera sur chaque lieu meurtri. Le Stade de France, les terrasses du nord de Paris et bien sûr le Bataclan, avant d'inaugurer à 18h un jardin mémoriel derrière l'hôtel de ville avec une cérémonie à huis clos réservée aux survivants, aux familles de victimes et aux secours. Christophe Molmy sera présent. Il était à l'époque le chef de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention de Paris, qui a libéré les otages du Bataclan, une nuit dont il ne peut rien oublier. Il témoigne ce matin au micro RMC de Julie Brault.
Les années n'ont rien effacé. Pour Christophe Molmy, le souvenir du Bataclan reste douloureusement intact.
C'est notre métier, mais personne n'est préparé à ça, il faut être clair. Le poids, encore une fois, du massacre est très lourd.
L'ancien chef de la BRI se souvient encore de l'assaut qu'il a dirigé contre les terroristes, permettant de sauver 11 otages.
Ça, c'est une photo des otages du couloir, il me l'a offerte. Je pense qu'il y a une sorte de lien indicible. Il y a quelque chose qui nous lie. Ouais.
Et puis, il y a les bruits, les images de l'horreur qui persistent toujours 10 ans plus tard.
C'est une question de stimuli. Une fois, j'étais dans un théâtre avec mon épouse qui ressemblait un petit peu. Bon, forcément, ça nous touche.
Je suis marqué à vie, dit-il, tout comme la BRI, forcée de se réorganiser depuis qu'elle a fait face pour la première fois ce jour-là à des terroristes résolus à mourir.
On ne pouvait pas prendre vivant quelqu'un qui a un gilet explosif et qui est venu pour mourir. Ça oblige à reconsidérer toute la balistique, c'est-à-dire les gilets pare-balles, les casques, l'armement aussi. Ça a obligé à recruter et à plus que doubler d'ailleurs l'unité.
Aujourd'hui, 100 policiers d'élite composent la BRI, des hommes entraînés à faire face à toutes les formes de terrorisme, y compris les attaques chimiques et nucléaires.
Il salue le geste d'humanité de l'Algérie. Emmanuel Macron a exprimé son soulagement hier soir après la libération de Boualem Sansal. L'écrivain franco-algérien atteint d'un cancer a été gracié et sera soigné à Berlin en Allemagne où il a atterri dans la soirée. Il est 7h35 et c'est une affaire qui avait provoqué beaucoup d'émotions. Le suicide le jour de la rentrée de l'institutrice Caroline Grandjean dans le Cantal après des mois de harcèlement homophobe. On l'a appris hier soir, Romain Houg, sa veuve porte plainte contre l'éducation nationale.
Oui, une plainte qui vise également le maire du
village de Moussage où est située l'école dont elle avait été la directrice, la même école dont les murs avaient été recouverts de tags homophobes, déclenchant une enquête finalement classée sans suite en l'absence de faits nouveaux, avait précisé le parquet. Caroline Grandjean était la cible de harcèlement depuis septembre 2023 en raison de son homosexualité, des écrits qu'elle a laissés avant sa mort dans lesquels elle évoque un acharnement et un manque de soutien de sa hiérarchie. En arrêt maladie, l'enseignante s'était vu proposer un poste à quelques kilomètres de Moussage pour la rentrée scolaire, mais elle n'avait pas réussi à reprendre le travail. C'est son épouse qui a décidé de porter plainte. Mon combat, c'est qu'elle soit reconnue victime, avait-elle déclaré devant la presse il y a 2 mois. Toute la lumière doit être faite sur les circonstances qui ont conduit à ce drame, répond le ministère de l'Éducation nationale, qui rappelle qu'une enquête judiciaire et qu'une enquête administrative sont en cours.
Les précisions de Romain Houg pour RMC. Il est 7h36 et on en vient à cette proposition des notaires de France qui réclame la création d'un statut juridique pour reconnaître officiellement les beaux-parents. Une nécessité, disent-ils, à l'heure où 1 enfant sur 10 vit désormais dans une famille recomposée. Antonin Audion.
3 enfants, 1 semaine sur 2 depuis plus de 10 ans. Chez lui, qu'il nourrit, emmène à l'école ou chez le médecin, mais pour qui légalement, il n'est personne. Depuis plus de 10 ans, Christophe vit avec sa femme et les 3 enfants qu'elle a eus d'un premier mariage.
Au début de l'année, on remplit sur le carnet nom du père, nom de la mère, et qu'on rajoute le nom du beau-père en précisant qu'il est beau-père. Ben voilà, quelle existence légale, juridique pour ce beau-père.
Au-delà des lourdeurs administratives, Christophe anticipe les problèmes d'héritage entre ses 3 filles et la 4e qu'il a eue en commun avec sa femme.
Je veux surtout pas ça, ils s'entendent tellement bien tous les 4 qu'il faut pas que si demain il m'arrive quelque chose, alors l'argent, parce qu'on le sait, bah, quand il y a à un moment donné un héritage, c'est là qu'il peut commencer à y avoir des soucis. Je veux pas que ça devienne un sujet entre eux et je veux pas qu'ils se sentent lésés les uns les autres.
Pour y remédier, le Congrès des notaires de France propose d'inscrire dans la loi les liens au sein des familles recomposées. Jean Gastet est notaire et président honoraire du Congrès.
Reconnaître non pas un statut, mais une déclaration. C'est un acte volontaire du beau-parent vis-à-vis du bel enfant. On reconnaît qu'on a un lien ensemble et que la société doit le reconnaître pour nous.
La déclaration permettrait d'offrir une solution plus simple que l'adoption aux familles recomposées.
Et on donne tout de suite la parole à Thierry, qui nous a appelé pour témoigner depuis l'Hérault. Bonjour Thierry.
Thierry, bonjour, vous êtes
artisan, vous vouliez réagir justement à ce nouveau statut. À côté des parents, il y aura désormais le statut de beaux-parents.
Moi, je trouve ça très bien, puisqu'on... Bon, après, on va pas se mentir, ce qui compte, c'est l'affectif et l'amour qu'on donne à nos enfants. Après, comme on est dans un monde où il faut tout administrer et trouver des statuts, moi, je trouve ça très bien.
Vous en avez-vous de vos enfants ?
Ben moi, si vous voulez, mes enfants, ils ont un beau-père qui est génial avec eux. Et il a fait, lui, ses démarches de son côté pour les mettre sur l'héritage. Et nous, on n'est pas là pour faire de l'ego trip, hein, les adultes. Donc moi, je trouve ça très bien.
Ne pas être en compétition, justement.
Ben voilà, ce qui compte, c'est l'intérêt et le bien-être de nos enfants sur le moment et sur l'avenir. Et c'est pas une guerre entre adultes et nos égos, quoi. Nos égos, ils doivent partir à la poubelle, quoi, à ce moment-là.
Merci pour votre témoignage, voilà, Thierry. Cette reconnaissance qui permettrait effectivement d'encadrer le rôle de beaux-parents, c'est une proposition pour l'instant, c'est pas tout à fait fait. Élise, un mot de foot.
En football, oui, les Bleus ont une chance de se qualifier ce soir pour le Mondial 2026, mais pour ça, il faudra battre l'Ukraine au Parc des Princes, coup d'envoi à 20h45 à vivre évidemment sur RMC.
Et puis le quintet, Élise.
Avec notre pronostic du jour, 13h55 sur l'hippodrome de Fontainebleau, le favori, c'est le numéro 7, Gérard Terborch, l'outsider, c'est le 4, Galorde.
C'était le journal d'Élise Dangean.